Focus. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Jean Ménard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce troisième volet de Focus, une émission qui vous propose, vous auditeurs, de découvrir les académiciens à travers quatre faits marquants de leur vie. Alors Jean Ménard, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1997 dans la section philosophie. Vous avez en effet fourni de nombreuses recherches sur Blaise Pascal et le philosophe Louis Lavelle a été pendant une année votre maître lorsque vous étiez en Cagne. Et donc les jours précédents, nous avons évoqué ces deux pans de votre vie. Et aujourd'hui, nous parlons de vos voyages dans le monde, puisqu'en effet, vous êtes parti en Afrique, aux États-Unis, en Corée ou encore au Japon. Alors, première question, pour quelles occasions partiez-vous comme ça aux quatre coins du globe, Jean Ménard ?
Oui, bien, lorsque j'y réfléchis en tenant compte de votre question, je dirais que j'étais pas destiné à être un voyageur. Il y avait aucune raison pour que je parte ainsi sur les routes du monde.
On reste dans les découvertes.
Et c'est simplement les circonstances et ce que je ne connaissais pas en moi qui s'est découvert. Mais ce désir d'autrui, ce désir de l'autre, en quelque sorte, qui s'est manifesté. Et comment s'est-il manifesté? Alors, je veux dire que primitivement, j'étais surtout attaché à ma campagne natale et je n'avais qu'une idée en vacances, par exemple, d'y retourner. Et lorsque les voyages que j'ai faits, je n'ai presque jamais été touriste, si vous voulez. Je crois que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde et que j'ai parcouru à peu près la Terre entière. Je suis toujours parti sur mission.
C'était toujours dans le cadre de vos fonctions.
Dans le cadre de mes fonctions.
En tant que
professionnel. Dans le cadre professionnel. Mais, évidemment, je dois dire que si la raison initiale était professionnelle, je profitais de chaque voyage pour aller jusqu'au bout des ressources que m'offrait cette circonstance. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? La première fois que je suis parti, c'était justement, j'étais à Bordeaux. Ça a été ma première université. Enfin, l'une des premières, oui. La première en France, puisque
c'était
il y a eu
la Sarre,
oui. Comme vous l'avez dit très justement. Alors, je venais d'arriver et l'université de Bordeaux avait de grosses responsabilités outre-mer, et notamment pour en période d'examen. Il fallait envoyer des présidents de jury et s'occuper de... Or, l'universitaire, et c'était au fond ce que j'étais avant, et,
oui.
Et casanier, normalement casanier.
L'universitaire est de nature casanier.
Nature casanier. Or, moi, j'étais aussi de cette nature. Et puis, dès que j'avais fait un premier voyage, je suis devenu un globe-trotteur. Parce que j'ai découvert, en somme, ce que l'on découvrait par là.
Alors, premier pays, c'était lequel ?
Ça a été le Maroc.
Le Maroc.
Le Maroc. J'avais déjà fait des voyages, notamment pendant mon service militaire. J'étais allé en Algérie. Oui, pendant la guerre. Pendant
oui.
la guerre, oui. Et puis,
Donc, vous étiez membre du jury? Vous étiez membre
d'un
jury?
Alors là, j'étais membre du jury de baccalauréat. Ça se passait en 57, oui. Et alors, donc, j'ai été envoyé d'autorité pour présider les jurys de baccalauréat au Maroc. Ben, quand j'ai été là-bas, j'ai été conquis et j'en ai profité pour, avec des amis d'ailleurs que je rencontrais là-bas, parce que j'étais pas tout seul quand même, pour organiser tout un voyage de découverte.
Et donc, ce fut donc une bonne expérience. Vous êtes resté combien de temps au Maroc?
Ça a été une expérience. Ça a été ma première expérience, mais ensuite, ça a été une première occasion de profiter des circonstances que m'offrait l'université dans laquelle je me trouvais. Et ça, chaque fois qu'il y avait une mission à assurer...
Vous étiez le premier partant?
Moi, j'étais partant. J'étais partant, d'autant plus qu'il n'y avait personne d'autre.
Ça facilite la tâche.
Oui. Par exemple, je suis allé en Afrique noire très, très rapidement après, puisque l'Afrique noire...
C'est le Mali, le Sénégal?
Le Cameroun. Le Cameroun et le Congo-Brazzaville. J'y suis allé, non seulement d'ailleurs, et au Maroc, je suis retourné bien souvent, j'y suis allé une dizaine de fois. J'y suis retourné pour faire des cours et pour faire de l'enseignement supérieur. Alors donc,
c'est un choix ou c'était parce que vous étiez détaché obligatoirement?
Ah non. Là, c'était une invitation. Comme j'en ai eu beaucoup dans beaucoup de pays. Mais là, et en 1960, je suis allé à Brazzaville. C'est la première fois que j'y allais pour ouvrir un centre d'enseignement supérieur et pour. Ça a été une expérience extrêmement intéressante et les satisfactions professionnelles étaient à la hauteur des satisfactions humaines pour la découverte. Et, par exemple, j'ai pu, étant à Brazzaville pour fonder ce centre, je rencontrais des collègues, des jeunes collègues, généralement jeunes, désemparés, qui ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire parce que c'était nouveau pour eux. Je leur ai dit, mais qu'ils faisaient d'excellent travail, et c'était vrai.
Un centre d'enseignement supérieur, c'était voilà. Une université.
Les débuts de l'université, la propédeutique. Oui. Mais il suffisait justement que quelqu'un qui ait autorité pour leur donner des conseils vienne et leur dise qu'il faisait du très bon travail. Ça suffisait pour que tout s'arrange, tout aille bien. Donc c'était en même temps que cette région était vraiment piteuse. Et alors là. La découverte est évidemment découverte de la nature, mais aussi découverte de l'homme. Et l'homme, d'abord l'homme du pays, l'homme originaire de cette Afrique.
Vous avez dû faire des rencontres très enrichissantes.
Ah oui, et d'autre part le français qui a accepté de faire une partie de sa carrière ou de passer une partie de sa vie dans un pays lointain. Et ce sont des personnalités exceptionnelles en général. Et on fait une critique facile du colonialiste. Et la critique est souvent vraie, mais elle est souvent fausse. Et parce qu'il y en a qui font cela par dévouement. Par curiosité, par désir de connaître l'autre.
Et vous êtes resté longtemps au Congo?
C'est un autre caractère de mon expérience des voyages, c'est que ça a toujours été des voyages assez rapides. Là, je suis resté 15 jours à peu près, 3 semaines. J'ai souvent fait des séjours d'un mois, au Maroc par exemple, ou même un peu plus. Mais jamais de voyage, le long voyage, car c'est mon reste de casanier qui subsiste, c'est que j'aime bien partir. Il n'y a pas trop longtemps.
Pour revenir. Et alors, parmi tous les voyages que vous avez faits, il y a le Japon.
Alors, le Japon, c'est...
Le Japon dont vous souhaitez parler aujourd'hui.
Voilà, je crois que c'est l'exemple le plus remarquable et celui qui m'a laissé la trace la plus profonde.
On est donc en 1969.
69, oui, c'est la... Alors, il faut dire qu'entre-temps, j'étais allé plusieurs fois, d'ailleurs, au Canada et aux États-Unis.
J'ai eu le temps de faire 4 fois le tour du monde.
J'ai dû retourner, peut-être pas 4 fois, mais enfin au moins 2 fois. Et alors l'expérience du Japon est d'autant plus intéressante qu'elle s'est liée d'une manière extrêmement intime à toute mon expérience professionnelle. Et parce que j'ai connu beaucoup de Japonais avant d'aller au Japon. J'ai eu des étudiants japonais, nombreux, des collègues japonais.
Vous étiez déjà sensibilisé à la culture japonaise.
Absolument. Et j'ai un de mes amis, alors si je pars parmi les rencontres que je pourrais mentionner, il y a celle d'un collègue japonais qui a été un de mes amis les plus intimes pendant très très longtemps, dont j'ai appris beaucoup. Et parce que l'un des aspects sur lesquels j'insisterai le plus à propos du Japon, c'est la découverte de l'unité du genre humain, si vous voulez.
L'unité du genre humain.
Quoique, si vous voulez, un Japonais et un Français, ça a beaucoup de choses différentes. C'est très différent.
Alors, quelles sont les différences?
Par exemple, un Japonais a beaucoup plus le sentiment de la réversibilité des choses, du manque de solidité des choses. Alors que la recherche de la stabilité, c'est quelque chose de capital. Bon, ça, c'est peut-être un exemple un peu trop abstrait. Alors, lorsque l'on parle de l'Orient en France, généralement, on considère que c'est les pays islamiques.
Oui, effectivement.
Or, le japonais, ça les fait rire, cela, quand on leur dit ça. L'Orient, c'est simplement le Japon. Chine et le Japon.
C'est l'Asie.
C'est l'Asie. Parce que l'islam, c'est l'Occident. C'est le plein Occident pour eux. Parce que il y a le monothéisme. Alors, le monothéisme, c'est typique de l'Occident. Et alors, il y a beaucoup de chrétiens, il y a des monothéistes, en tout cas assez nombreux au Japon, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même.
Oui.
Alors, c'est l'exemple. C'est-à-dire, la notion de personne est beaucoup moins claire pour eux, la notion d'individu. Ils ont beaucoup plus le sens de, d'une sorte d'uniformité indistincte, et dans laquelle tous les personnes, ils sont assez naturellement panthéistes, si vous voulez, panthéistes.
Et... Alors, en quoi votre voyage au Japon diffère-t-il des autres voyages?
Ah ben oui, d'abord parce que on a un dialogue d'une qualité et d'une profondeur beaucoup plus grande.
C'était toujours dans le cadre de l'université?
Ah, dans le cadre d'une université.
Pour faire une conférence?
Oui. Alors, pour faire des cons. Là, je veux dire, puisque je parle plus particulièrement de mon premier voyage au Japon, ce premier voyage qui se déroulait au printemps 1969, oui, m'a permis de parcourir absolument tout le Japon. Pas tout en détail, mais je suis allé au nord, dans l'île d'Hokkaido, et au sud, dans l'île de Kyushu, en même temps que je séjournais surtout à Tokyo et que je visitais Kyoto, bien sûr. Donc j'ai vu à peu près tout le Japon en un peu plus d'un mois, qui a été la durée de mon premier séjour. J'ai fait finalement d'assez nombreuses conférences, mais j'ai surtout eu beaucoup de contacts avec des professeurs. Et alors, c'est à mettre en rapport. L'un des intérêts de ces voyages, c'est le problème des relations culturelles. Les relations culturelles, ce n'est pas une administration des affaires étrangères qui envoie des circulaires dans le monde entier. Ce sont des gens qui se déplacent. Ce sont des gens qui travaillent ailleurs qu'en France et des rencontres entre les uns et les autres. Et ces rencontres entre les uns et les autres permettent une certaine façon d'organiser la vie intellectuelle dans le monde entier. Et il y a des pays avec lesquels, malgré toutes les différences que je viens de signaler, il y a des atomes crochus qui se révèlent particulièrement puissants. Or, c'est le cas avec le Japon. Par exemple, un Japonais sait très bien distinguer un farceur, dirais-je, d'un penseur sérieux, pour ne parler que des écrivains de pensée.
Alors qu'en France,
on oublie quelquefois de distinguer, ou du moins, on fait un grand cas de personnes, de personnages qui ne méritent qu'un éclat de rire. Or, le Japonais sait très bien faire cette différence. Et là, il rejoint une haute culture française, dont je voulais être autant que possible le porte-parole.
Vous vous sentiez proche de leur culture? En tout cas, ça vous parlait?
Oui. Alors, si vous voulez, l'un des traits majeurs de ces pays, notamment du Japon, c'est la civilité, c'est-à-dire la courtoisie, c'est-à-dire le refus de contredire l'autre, et le souci de ne jamais aggraver les différends. Et alors, je dirais que de mon côté, je faisais de la même chose. On ne cherche pas à accuser les différences, mais on cherche au contraire à mettre en relief les ressemblances. Or, les ressemblances sont énormes, quand même. Et c'est d'ailleurs un des sujets les plus courants d'études chez les Japonais, que l'étude des rapports qui peuvent exister, des affinités qui peuvent exister entre tel penseur japonais ou tel penseur français. Alors Pascal était un de ceux sur lesquels il travaillait le plus, parce qu'il trouvait des correspondants au Japon. Et d'autres auteurs, c'est la même chose. Et même dans la tradition bouddhiste, qui est très vivace au Japon, il trouvait aussi l'occasion d'établir des rapports soit avec des saints du christianisme, soit avec des penseurs, des philosophes de l'Europe. Et c'est donc cette orientation culturelle est tout à fait importante.
Merci Jean Ménard. On se donne rendez-vous demain pour évoquer le quatrième et dernier moment de Focus. Et donc, pour ce moment-là, nous parlerons de votre entrée à l'Académie des sciences morales et politiques, bien sûr.